Je vais donc vous parler de l'émergence que j'ai mis au pluriel de symboles, que j'ai également mis au pluriel, et essayer de vous montrer la très grande diversité qu'ont eu nos ancêtres du passé quant à la fabrication et à la gestion de symboles. J'ai été le directeur de l'UMR Passea jusqu'à la fin de l'année dernière, après 5 années effectivement de loyaux services pour mon unité de recherche en tant que directeur d'unité, et 4 années précédemment en tant que directeur d'unité adjoint. Donc j'essaie de revenir à la recherche normale, donc je suis désolé si je ne suis pas encore à nouveau dans mes bottes de chercheur très compétent. Et je n'ai pas résisté à vous mettre ce très beau tableau d'un gravétien qui, il y a 25 000 ans, dans une grotte de Charente, a représenté en quelques traits un visage, très probablement un visage d'un individu qui, heureusement, n'était pas voilé. Et le voile de calcite qui l'entoure était clairement ouvert pour nous permettre d'apprécier ce visage et ce symbole qu'il y a à travers ce visage. Je suis un spécialiste, comme l'a dit Jean-Marie Daniel Lamazière, des hommes préhistoriques, et je suis un spécialiste de la partie la plus récente de l'histoire de l'humanité, à savoir les derniers groupes d'hommes préhistoriques très différents de nous par leur morphologie osseuse, et les premiers hommes anatomiquement modernes, nos supposés ancêtres préhistoriques. En tout cas, les ancêtres préhistoriques de quelques groupes humains qui existent sur la Terre actuellement. Un symbole, c'est une entité, ça peut être une image, un objet, un son, un être vivant, à laquelle est obligatoirement attribuée une signification qui n'a pas de lien avec, ou de lien direct avec l'entité en question. Et je suis toujours admiratif par la façon dont ces deux symboles, qui n'existaient pas il y a 10 ans, sont maintenant probablement échangés tous les jours par des millions de personnes dans le monde, sans que ces personnes se soient rencontrées, et qu'elles les comprennent tout de suite. Alors c'est un peu rigolo de voir que ce symbole-là finalement est synonyme de celui-ci. Ça nous interrogera sur ce que les hommes préhistoriques ont pu faire. Et qu'avec la multiplication de la parenthèse, bien sûr, on exprime encore plus sa satisfaction. Naturellement, et en voie de conséquence, les symboles les plus faciles à appréhender d'un point de vue cognitif sont ceux qui sont manipulés selon des règles qui sont explicites, et personne ne doute, en tout cas dans les sociétés occidentales chrétiennes, que quand elle voit un individu avec un anneau doré à la main, cet individu représente symboliquement le fait qu'il est attaché affectivement au moins à une autre personne. Mais en sciences humaines et sociales, divers systèmes de signes peuvent être considérés comme relevant de comportements symboliques. Et il s'agit par exemple de tous les systèmes de croyances, avec donc cette production artistique qui traduit symboliquement un mythe concernant l'origine de l'homme, des récits donc mythologiques, des productions qui sont basées naturellement sur des conventions. Ces systèmes de symboles répondent donc toujours à une organisation et à des conventions sociales, mais ces conventions ne sont pas forcément régies par des règles, qui sont évidentes. Et on peut s'interroger sur la façon dont l'intelligence qui existe peut-être ailleurs dans l'espace, dans l'univers, quand elle rencontrera le module pionnier, comprendra de la reproduction sexuelle chez l'homme, avec cette petite plaquette gravée, où pour des raisons artistiques, mais aussi symboliques et conventionnelles, liée à une certaine forme de puritanisme américain, la jeune femme américaine a été représentée d'une façon asexuée. À partir de là, on peut essayer de définir deux types et deux principaux types de comportements symboliques pour lesquels nous, les préhistoriens, les paléoanthropologues, nous avons les moyens d'essayer de réfléchir. Les premiers types de comportements concernent naturellement les expressions symboliques, à savoir la production d'objets qui se fabriqueront via l'utilisation de ressources naturelles matérielles. Et c'est uniquement avec ce type d'objets qui malheureusement nous arrive en étant très très mal conservés que l'on va réussir à discuter quelque peu des expressions symboliques de nos ancêtres. Et il y a naturellement les activités symboliques. Des activités symboliques qui sont encore plus complexes puisqu'elles vont concerner tout ce qui peut porter sur la gestuelle, les sons, les danses, la participation collective qui traduisent la réelle dimension symbolique des populations du passé. Et il est évident que nous, archéologues, préhistoriens, paléoanthropologues, on sera bien démunis devant les restes d'un squelette humain, excusez-moi, qu'on sera capable de reconnaître que probablement ce squelette humain avait été fumé par ses contemporains, mais est-ce qu'on sera capable d'en déduire que cela avait été fait dans le cadre de comportements symboliques? Et bien évidemment, dans le cadre de ce type de dépôt funéraire, qui se faisait en plusieurs temps, ce que l'on retrouvera ne nous permettra que très rarement de discuter l'existence de ce type de préoccupation symbolique en amont, qui consistait à faire dessécher le corps d'un individu sur une plateforme pour l'isoler des charognards et de récupérer des ossements à un moment de sa décomposition, qui n'était pas forcément d'ailleurs lié à la disparition totale des parties molles du cadavre. Donc je vais essayer de vous présenter maintenant quelques informations et de remonter le temps sur la diversité de ces pratiques symboliques en fonction de l'organisation sociale des groupes humains. Au néolithique, qui correspond, je ne parlerai que de préhistoire ici, qui correspond à une période où l'homme va complètement changer ses relations avec le monde vivant, qu'il soit animal ou végétal, on va avoir suffisamment d'informations, pratiquement pour toutes les périodes du néolithique, sauf peut-être un petit peu le néolithique ancien, qui est variable en fonction des pays et des environnements, suffisamment d'informations qui nous permettent de comprendre que la production symbolique était déjà très très fortement structurée, et tellement fortement structurée sur des territoires bien définis, que l'on peut supposer que derrière cette production symbolique, il y avait des croyances très importantes qui étaient fondamentales pour ces sociétés néolithiques. Exemple de ce type de structuration, ces nécropoles de type passy qui ont une forme très très particulière, vous voyez, avec des alignements qui sont très très longs, avec cette forme de triangle très très étiré. Ces nécropoles de type passy que l'on retrouve dans le nord de la France sont des nécropoles que nous savons être structurés autour d'individus. Alors, est-ce que ces individus étaient des chefs de ces groupes néolithiques? Est-ce que ces individus avaient un rôle particulier au sein de ces sociétés néolithiques? Mais ce qui est certain, c'est que la nécropole va être organisée autour de la tombe d'un individu fondateur, cet individu pouvant être parfois associé à des objets très particuliers, pyramidaux, comme vous pouvez le voir ici ou là, qui reproduisent d'ailleurs un petit peu la forme du monument funéraire qui est long de plusieurs dizaines de mètres, comme vous pouvez le voir sur l'échelle, et qui sont toujours, en tout cas pour ceux-ci, systématiquement associés à des individus adultes. C'est la répétitivité de l'observation, c'est le nombre de cas qui ont été mis au jour, qui nous permettent d'avoir ce type de compréhension des gestes de ces populations qui vivaient il y a près de 5000 ans avant le présent. Avant le néolithique, nous avons une courte période que nous appelons le mésolithique, qui se caractérise en Europe de l'Ouest par des populations de chasseurs-cueilleurs, mais qui ne vivent plus dans un environnement froid et sec, comme cela était le cas précédemment. Et ces populations de chasseurs-cueilleurs vont être confrontées donc à une adaptation assez rapide à des changements environnementaux profonds, avec des populations animales qui changent fortement. Il n'y a plus les grands troupeaux d'herbivores migrateurs. Et on peut savoir, grâce à une certaine abondance de cas, que ces populations mésolithiques, étaient également très productrices d'activités symboliques. Et c'est essentiellement à travers à nouveau leur mort qu'on va pouvoir le déduire. Voici par exemple une sépulture double d'un individu mésolithique de sexe féminin qui est inhumé à côté d'un bébé de 7 mois. Et grâce à la diversité des tombes trouvées dans ce gisement du Danemark, nous avons pu comprendre et déduire que cette lame de silex de couleur bleue que vous voyez associée au nouveau-né traduit l'appartenance de ce nouveau-né au genre masculin, puisque tous les adultes masculins, et nous sommes capables de déduire le sexe d'un individu grâce à son bassin, tous les adultes masculins de cette tombe, et de cette nécropole, pardon, étaient associés à ce type d'objet. Les mésolithiques auront une relation très particulière dans leur monde funéraire avec le monde sauvage animal, puisque très souvent, les tombes des adultes ou des nouveau-nés sont architecturalement organisées autour ou avec des éléments osseux ou de bois d'animaux sauvages tels que les cervidés pour les nécropoles de Teviec et Udik dans le Morbihan, vieilles de près de 6000 ans, ou des massacres d'aurochs, qui est un bovidé sauvage qui a disparu très récemment d'Europe de l'Ouest, mais qui était un animal assez probablement terrible, donc des massacres d'aurochs qui sont très intimement associés à la tombe de ce sujet masculin. Il y avait aussi un ensemble de parures de coquillages qui étaient mises à proximité de ce spécimen. C'est donc probablement des changements liés à la relation que l'homme avait avec son environnement et le changement de cet environnement naturel qui a fait que ces objets ont acquis une valeur symbolique pour ces populations mésolithiques. Avec le paléolithique supérieur, donc entre moins 12 000 et moins 40 000 ans, grosso modo en Europe de l'Ouest, nous sommes en présence de populations humaines qui vivent sous la forme de groupes de chasseurs-cueilleurs nomades, de groupes qui devaient réunir plusieurs cellules familiales, qui se déplacent donc sur des territoires relativement vastes, qui peuvent avoir près de 200 km de diamètre autour de certaines zones résidentielles, pour acquérir des ressources, qu'elles soient animales ou minérales, mais l'essentiel de la structuration de ces territoires se fait plutôt autour de l'acquisition de ces ressources minéral, l'homme semble un petit peu enfermé à cette période-là par des contraintes techniques quant à la fabrication de son outillage lithique, et plutôt que de s'adapter à la qualité des matières qu'il va rencontrer sur un territoire où il arrive pour chasser des animaux, il va préférer échanger ou aller chercher ses matières premières à des distances très très importantes. Ces hommes du paléolithique supérieur sont extraordinairement bien connus par leur production symbolique qui ont fait penser à un moment au début de la préhistoire à ce qu'on a appelé l'âge d'or de la préhistoire, puisque ces hommes du paléolithique supérieur vont être les artisans des très belles grottes ornées que nous connaissons dans le sud-ouest de la France et la région cantabrique, avec ici une photographie de la grotte de Cussac du côté de l'Allende. Ils vont aussi se caractériser par une production de parures en matière dure animale, essentiellement des coquillages, mais aussi des dents de carnivores, des dents d'herbivores, et particulièrement relativement à leurs prédécesseurs, ils vont se caractériser par le travail de la matière dure animale pour transformer cette matière dure animale en armes que l'on va retourner contre l'animal. Et c'est probablement cela qui caractérise, avec la réalisation de ces représentations figuratives animales très naturalistes, qui caractérise ces hommes du paléolithique supérieur. Le fait de transformer la matière dure animale en arme contre l'animal est une idée qui symboliquement va s'imposer à cette période-là et va caractériser, selon moi, cette période-là. Alors, il ne faut pas croire que les hommes du paléolithique supérieur étaient forcément très respectueux des productions symboliques d'autres groupes qui pouvaient exister ou qui pouvaient arriver sur leur territoire. Et je ne résiste pas à ces deux photographies d'une très belle frise sculptée au roc aux sorciers en Charente qui est datée du Magdalénien, où vous pouvez voir que des individus ont représenté un ensemble d'herbivores sur cette frise sculptée, ensemble d'herbivores qu'ils ont représentés au-dessus d'une autre frise sculptée qui, elle, représentait, comme vous pouvez le voir, des femmes symbolisées par la moitié inférieure de leur tronc et leur sexe. Et c'est les artisans de la frise sculptée, des bouquetins essentiellement, qui ont transformé certaines de ces Vénus préhistoriques en bouquetins, parce que probablement le message que portaient ces Vénus préhistoriques ne leur parlait pas ou ne leur plaisait pas. Vous connaissez tous probablement cette magnifique scène du puits de Lascaux, qui est légèrement plus vieille puisqu'elle se rapporte au Solutréen, qui est une période très très courte de la préhistoire du sud-ouest de la France. C'est une des très rares scènes où les hommes préhistoriques se sont mis en scène avec ce probable chasseur qui vient de blesser ce bison et qui décède au cours de cette pratique de chasse. On ne sait toujours pas pourquoi les hommes préhistoriques du Solutréen ont présenté dans un endroit très confidentiel de la grotte de Lascaux cette scène, mais on peut remarquer que le Solutréen, dans l'histoire de la préhistoire, est une période très particulière, très courte chronologiquement, où les hommes vont atteindre un niveau de technicité dans la production de leur outillage lithique qui n'avait jamais été atteint précédemment, qui ne sera pas maintenu après, grâce à une maîtrise de la taille liée à une transformation de la matière première en silice par le simple fait de chauffer cette silice. Et en maîtrisant cette technique, les hommes du Solutréen ont fabriqué ces magnifiques objets que l'on appelle des feuilles de laurier, qui peuvent faire plus d'une vingtaine de centimètres de long, qui sont tellement fins qu'en les éclairant par derrière, il y a un effet de transparence. Ces objets étaient très probablement ils avaient très probablement une très forte valeur symbolique puisqu'ils n'étaient pas du tout fonctionnels. Et on peut s'interroger sur le fait que ce type de comportement symbolique soit associé finalement dans la grotte de Lascaux à une représentation très réaliste d'une scène de chasse qui est généralement excessivement rare dans les archives archéologiques de l'art rupestre ou pariétal. Le grand trésor de la préhistoire quant à la production d'œuvres à forte valeur symbolique est très clairement associé au monde gravétien qui va exercer tout son talent dans la production de différents types de Vénus, les fameuses Vénus gravétiennes. Le gravétien, c'est une culture préhistorique qui est pan-eurasiatique de l'Ouest, puisqu'elle s'étend des rives de l'Atlantique à l'Oural. Et on va retrouver, associé au site gravétien, relativement fréquemment, des Vénus préhistoriques avec des marques évidentes de femmes qui ont probablement accouché plusieurs fois, qui peuvent être très fortement stylisées ou symbolisées avec, à nouveau, des objets qui probablement ont une forte valeur symbolique que nous sommes malheureusement totalement incapables de comprendre. Par exemple, le fait que cette femme, la Vénus de Locel, tienne dans sa main droite une corne, une cheville osseuse, une corne striée, qu'elle semble porter ou rapprocher de son visage. La plus belle Vénus gravétienne est très certainement cette petite tête qui, à un moment, a eu un corps trouvé dans le gisement de Prasampouille dans les Landes, actuellement conservé au musée de l'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye, qui est de toute évidence, par la qualité de son visage, la Mona Lisa des Vénus préhistoriques gravétiennes. Les gravétiens ont également énormément investi la sphère symbolique des pratiques funéraires réservées à leurs défunts, avec une variabilité qui nous étonne toujours, et une richesse de matériel archéologique qui peut être associée à des défunts que l'on ne réussit pas à comprendre ou à expliquer. Je vous montre ici une tombe double de deux jeunes enfants, ou un jeune adolescent, un enfant trouvé à Songbir en Russie, âgé de près de 24 000 ans. Et ces deux enfants sont associés à des milliers de perles en ivoire de mammouth, des javelots en ivoire de mammouth, des poignards, des objets travaillés, détourés. Une abondance de matériel tellement importante que l'on pense qu'il n'était pas possible que ces deux jeunes adolescents, enfants, aient pu acquérir ce type de matériel de par leur courte existence dans ce groupe de chasseurs du Gravettien, et que cela était peut-être lié déjà au statut social des individus et donc à des sociétés qui étaient assez fortement hiérarchisées socialement. La diversité des pratiques funéraires des Gravettiens envers leurs morts est quasiment sans limite, puisque dans un site de Moravie, ce n'est pas une sépulture double que l'on a, mais c'est une sépulture triple. Et vous pouvez voir qu'il y a une réelle mise en scène des cadavres les uns par rapport aux autres, puisqu'un individu est couché sur le ventre, ce qui n'est pas fréquent. À côté de cet individu couché sur le ventre, il y a un sujet ici représenté comme un sujet féminin qui est couché sur le dos. Et à côté de ce sujet féminin, vous avez un autre sujet couché sur le dos, masculin, mais dont le bras gauche va vers la région pubienne du sujet central. Et il faut savoir que les têtes et la région pubienne de ce sujet central étaient recouverts ou entourés par de l'ocre rouge. Naturellement, les préhistoriens, qui vont parfois un peu vite dans leurs analyses, n'ont pas hésité à supposer que le sujet à gauche était peut-être un chaman qui aurait pu avoir été le responsable du décès du sujet au milieu. Mais l'analyse biologique de ces spécimens nous montre que nous sommes peut-être en présence de quelque chose d'encore plus compliqué, puisque si nous sommes sûrs d'être en présence de deux sujets masculins encadrant cet individu est un sujet pour lequel nous ne sommes pas capables actuellement de déterminer le sexe en fonction de la morphologie de son bassin, alors que sur des hommes modernes, quand on a les ossements du bassin bien conservés, comme c'est le cas pour ces trois spécimens, nous avons des techniques qui nous permettent d'être sûrs du sexe d'un individu avec quasiment zéro chance d'erreur de se tromper. Donc on est peut-être ici en présence d'un sujet qui, pour des raisons physiologiques, avait un sexe qui n'était pas aussi facile que cela à cerner pour le groupe des Gravettiens. Très récemment, à la Lende, dans la fameuse grotte de Cussac, au début des années 2000, fin des années 90, on a trouvé une cavité qui nous a apporté beaucoup d'informations sur une partie de la diversité des pratiques funéraires des Gravettiens et de ces pratiques symboliques, puisque nous avons associé dans la même cavité des dépôts de restes humains à même le sol et à proximité de panneaux gravés. La grotte de Cussac à la Lende est très probablement le Lascaux gravettien de la gravure, puisque ce sont des dizaines de panneaux avec des animaux longs de plus de 2 mètres qui ont été représentés sur ces blocs de calcaire recouverts d'une fine pellicule argileuse. Et naturellement, les gravettiens n'ont pas hésité à nous laisser aussi des représentations de Vénus féminine. C'est également au cours du Gravettien que l'on a la certitude que l'homme était capable de maîtriser certains sons grâce à la fabrication d'objets de type flûte, et qu'au cours de ses activités symboliques ou pratiques symboliques, la musique pouvait accompagner leur comportement. Enfin, et parce qu'on en a fait une grosse publicité lors de sa découverte, vous savez aussi maintenant que c'est dès le début d'une des plus vieilles cultures du paléolithique supérieur, que l'on appelle le Rognacien, que l'homme va traduire une partie de ses capacités à faire de la représentation symbolique à travers les représentations animales de la fameuse grotte de Chauvet en Ardèche, qui est vieille pour la première phase d'occupation de la grotte de près de 32 000 ans, où on a ces magnifiques représentations de rhinocéros, de chevaux, de bisons et de lions et lionnes des cavernes, avec une maîtrise de différentes techniques artistiques qui sont telles que, quand la datation a été fournie, beaucoup de scientifiques ont considéré que les dates étaient fausses, parce qu'il était impossible que les hommes de l'Aurignacien, aux alentours d'il y a 30 000 ans, aient eu une telle maîtrise technique. Pourtant, d'autres critères de la culture aurignacienne nous permettaient de savoir que ces hommes avaient une très très forte production de symboles. C'est par exemple le cas avec l'existence d'un certain nombre d'êtres composites qui étaient connus dans les archives aurignaciennes, comme cette représentation d'un lion bipède ou d'un homme lion, ou toujours à Chauvet, cette représentation d'une femme bison, puisque vous avez associé au membre inférieur gauche d'une femme, un membre inférieur gauche d'une femme qui se transforme progressivement en une partie de corps de bison, la tête du bison étant au-dessus du sexe de ce sujet féminin très facilement reconnaissable. Au cours de tout le paléolithique supérieur, la majorité de la production symbolique s'exprime à travers l'existence de signes, des points, des traits, des carrés, des damiers, des triangles, dont malheureusement, nous ne réussissons toujours pas à comprendre la signification symbolique. Alors certes, grâce à certaines découvertes récentes, telles que celle de la grotte de Chauvet, on sait que ce panneau de points rouges correspond à un ensemble de passages de la main d'un même artiste qui a plusieurs fois tamponné la paroi calcaire. Mais pourquoi cet artiste aurignacien a eu ce type de comportement? L'absence de données et de sites équivalents ne nous permet pas encore d'essayer de déchiffrer le potentiel message symbolique qu'il y avait derrière ce type de production. Les Aurignaciens seront également les premiers qui vont modifier une partie du corps de leurs contemporains pour transformer les corps de cette partie du corps de leurs contemporains en objets probablement à forte valeur symbolique. Ces parties de corps sont essentiellement les dents, dents qui sont donc obligatoirement récupérées sur des individus, je l'espère, dans le cas de ce spécimen mort, puisqu'il s'agit quand même d'une molaire d'adulte. Et j'espère pour lui qu'on ne lui a pas enlevé de son vivant, ce qui n'était pas théoriquement impossible à faire, pour perforer une racine de cette dent pour la transformer en pendeloque. Ce type de comportement de transformation d'une partie du corps humain en objet à valeur symbolique naît à l'aurignacien et perdurera jusqu'à une période très très récente de notre humanité. La première culture du paléolithique supérieur dans le sud-ouest de la France est appelée le châtel péronien. Et avec cette culture, nous avons un souci parce que sur le territoire européen de l'ouest, au châtel péronien, potentiellement, nous pouvons être en présence de deux humanités différentes, à savoir les hommes modernes à votre droite et les néandertaliens à gauche. Et il y a actuellement un débat pour savoir qui a été l'artisan de cette culture châtelperronienne, tout simplement parce que cette culture châtelperronienne, sur la base de la fabrication des outils en matière lithique, s'inscrit très clairement dans les cultures du paléolithique supérieur, mais aussi parce que dans ce châtel péronien, pour la première fois en Europe de l'Ouest, on a une intense production d'objets à valeur symbolique, à savoir des parures faites sur des dents ou des matières fossiles animales et une forte utilisation de pigments de couleur rouge ou noire. Et en raison de l'existence de ce type de produit à valeur symbolique, plusieurs préhistoriens refusent d'accepter l'idée qu'une population humaine non anatomiquement moderne, à savoir n'ayant pas une organisation cérébrale similaire à la nôtre, ait pu avoir ce type de comportement symbolique. Ils ont d'autant plus de difficultés à accepter cette idée qu'on ne réussit toujours pas à comprendre pourquoi cette population humaine que l'on appelle les Néandertaliens, si elle avait été capable d'avoir ce type de production symbolique, aurait disparu face à l'arrivée sur leur territoire de ces hommes modernes. Alors, ce raisonnement, malgré tout, est un petit peu réductif, puisque nous savons que ces Néandertaliens, au niveau symbolique, ont eu des activités qui sont toujours celles que nous sommes capables de pratiquer, et vous allez voir qu'ils ont eu des activités beaucoup plus diverses que ce que l'on peut croire. Mais l'activité symbolique, probablement la plus lourde en termes de valeur maîtrisée par l'homme de Néandertal est certainement celle qui consistait à inhumer ses morts, puisque les Néandertaliens sont sur le territoire européen ou sur le territoire eurasiatique occidental les premiers hommes qui ont inhumé leurs morts. L'inhumation de ces morts concerne aussi bien des sujets adultes que des sujets immatures, avec d'ailleurs pour les hommes de Néandertal un nombre relativement conséquent de sépultures de nouveau-nés, que l'on ne retrouvera en proportion relative que pour des périodes très récentes de la préhistoire, et des comportements qui nous permettent de savoir que ces hommes pouvaient programmer des gestes très particuliers après la mort d'un de leurs contemporains, comme nous le démontre l'absence du crâne, de la boîte crânienne, sur ce spécimen trouvé à Kebara en 1983 par mon professeur Bernard van der Merch. Et l'étude très précise et récente de cette sépulture de l'individu de Kebara a bien démontré que la récupération de la boîte crânienne avait été programmée par les hommes de Néandertal comme un geste funéraire à réaliser sur les restes de ce défunt. Les hommes de Néandertal vont se distinguer de leurs contemporains anatomiquement modernes, qui ont eux aussi inhumé leurs morts sur le même territoire proche-oriental aux alentours d'il y a 100 000 ans. Ils s'en distinguent non pas par la proportion relative d'individus adultes par rapport à des individus immatures, même si nous ne connaissons qu'une sépulture de nouveau-nés, potentiellement une sépulture associée à ces hommes modernes, et s'il y a beaucoup plus d'adolescents inhumés, toujours relativement aux adultes, chez ces premiers hommes modernes. Mais la principale différence qui existe entre ces hommes modernes et ces néandertaliens est que, au moins pour deux sépultures d'hommes modernes, sur une trentaine de cas documentés, nous avons une association assez stricte de fragments osseux d'animaux qui sont très intimement liés aux défunts ou liés dans la tombe aux défunts. Ce que vous avez au niveau de l'adolescent de Caséonze, c'est un morceau de massacre de bois de daim qui repose sur les deux mains de cet enfant qui a 10-11 ans et les deux mains étant positionnées à côté de sa tête. Et ce que vous avez à côté de cet individu adulte de school, c'est une mandibule de suidée, donc de sanglier sauvage, dont les branches montantes avaient été enlevées. Et on a presque le sentiment que cet individu tient cette mandibule dans ses bras, posée contre son tronc. Ce type de dépôt associant le cadavre d'un individu à un fragment osseux animal non transformé n'existe qu'au paléolithique moyen chez ces hommes anatomiquement modernes. Mais actuellement, en fonction de nos capacités à dater les niveaux archéologiques qui livrent ces squelettes, la plus vieille sépulture connue dans le monde, sépulture primaire, à savoir le fait d'enterrer un mort à un endroit et de ne pas revenir sur cette sépulture, est âgée de près de 120 000 ans et ce spécimen est attribué à la lignée néandertalienne. Jusqu'à encore très récemment, on pensait que les néandertaliens, quant à leur activité symbolique, se limitaient donc aux activités concernant leur mort. Et depuis une bonne vingtaine d'années, il y a de très nombreuses recherches qui se sont développées et qui nous ont permis de savoir que nous avions raté précédemment beaucoup de traces de leur potentielle créativité symbolique. L'une d'entre elles pourrait être ce masque trouvé dans une grotte d'Indre-et-Loire, ce petit bloc de calcaire de silex retouché, au sein duquel on a un fragment d'ossement qui a été figé dans une perforation naturelle. Et quand on oriente cet objet tel que je l'ai fait sur cette diapositive, tout le monde est capable de voir, de reconnaître quelque chose que l'on peut tous assimiler à un visage, ce que l'œil voit naturellement. L'esprit a très rapidement tendance à le croire. On sait également que les hommes de Néandertal étaient capables de fabriquer ou de produire des objets qui, s'ils étaient trouvés dans des sites beaucoup plus récents du Paléolithique supérieur, seraient classés parmi les objets à forte valeur symbolique ou des objets traduisant des systèmes numériques pour compter quelque chose. Ce que vous voyez ici, c'est un fragment de métapode de renne qui a été trouvé dans un gisement qui s'appelle les Pradelles en Charente, près de la Rochefoucauld. Et ce fragment de métapode de Red est trouvé dans un niveau qui est différent de ce fragment osseux, qui porte une série d'encoches de très très belles factures, qui lui est réalisé sur un fragment de fémur d'hyène des cavernes. Actuellement, cette pièce est une pièce unique dans les archives archéologiques de tout le sud-ouest de l'Europe, parce que les hommes de la préhistoire n'ont quasiment jamais utilisé les vestiges d'hyène des cavernes, qu'ils étaient pourtant capables de retrouver dans de nombreux gisements, pour les transformer ou pour s'en servir. Il est assez probable que la compétition qui devait exister avec ce carnivore social très puissant et excessivement dangereux devait très fortement déplaire à ces chasseurs-cueilleurs et qu'ils n'avaient pas envie de prendre une partie de l'anatomie de ces carnivores pour les transformer et pour en faire des objets à valeur symbolique. Nous savons également que les Néandertaliens ont été les premiers Européens de l'Ouest à utiliser abondance de pigments dans certains gisements, pigments de couleur noire ou de couleur rouge. Et le travail expérimental qui a été reproduit sur ces pigments et sur ces blocs de pigments nous assure que certains d'entre eux étaient transformés en crayons qui servaient ou qui avaient été utilisés sur des matières souples pouvant être la peau humaine. Voilà un petit test d'utilisation de ces pigments qui sont en oxyde de manganèse sur une main, peau humaine, écorce d'arbre, peau d'animaux tannés, transformés en habits. Il faut être très prudent quand on manipule ce type de pigments sur la base d'oxydes qui sont réalisés à partir de manganèse, puisque si on ingère ce manganèse en trop forte quantité, on a très rapidement des hallucinations et ça peut être même mortel. On sait également depuis assez peu de temps que les hommes de Néandertal se sont intéressés aux cerfs de grands rapaces parce que dans d'assez nombreux sites maintenant, quand on a décidé de s'intéresser à ce type de vestiges qui ne sont pas si fréquents, eh bien, on est capable de démontrer que les Néandertaliens sont venus dans ces gisements pour désarticuler des pattes de grands rapaces afin d'en récupérer la serre, probablement pour transformer cette serre en objet de parure à forte valeur symbolique, étant donné l'activité et les comportements de ces rapaces. Et on sait qu'ils ont fait également cela dans la perspective de récupérer des plumes et des grandes plumes de ces oiseaux, qu'ils soient des rapaces, voire même des pigeons sauvages. Ceci est complètement nouveau. Il y a une dizaine d'années, on n'avait strictement aucune documentation qui avait été reconnue et qui démontrait que ces hommes de Néandertal avaient eu ce type de comportement assez probablement à visée symbolique. Et encore plus récemment, mon collègue Francesco Derico, que je remercie, qui m'a donné beaucoup d'images pour faire cette présentation, qui est un très très grand spécialiste des activités symboliques des hommes préhistoriques, a décrit ce qu'il considère être une des plus anciennes gravures volontaires réalisées sur une paroi d'une grotte dans la région de Gibraltar, donc dans le sud de l'Espagne, vieille de près de 50 000 ans et associée à un niveau moustérien. Et Francesco, sur la base de la reconstitution des gestes qui ont permis l'existence de cette gravure, considère que nous sommes en présence d'une des plus vieilles gravures symboliques sous la forme d'une sorte de damier actuellement connu dans le monde. Il y a quelques petites, même pas une vingtaine d'années, une pièce osseuse trouvée dans un site de Slovénie, ce fragment de diaphyse d'ours, avait rencontré un certain succès parce que les perforations qu'elle portait sur les deux faces avaient permis aux archéologues slovènes de supposer l'existence d'une flûte au paléolithique moyen, donc associée à ces hommes de Néandertal, Mais malheureusement, l'étude comparative et taphonomique que nous sommes capables de réaliser sur ce type d'objet a permis à nouveau à mon collègue Francesco De Rico de démontrer qu'en fait, ces perforations que vous pouvez voir sur ce fragment de diaphyse d'ours étaient la conséquence du charognage des restes osseux d'ours dans leur lieu d'hibernation, charognage qu'ils font pour se recharger en matière minérale à la sortie de leur période d'hibernation. Pour une période contemporaine, à celle du Paléolithique moyen, était relativement méconnue encore récemment, un autre territoire nous livre actuellement énormément d'informations, c'est l'Afrique du Sud, avec différents gisements qui recèlent énormément d'objets que nous considérons comme portant beaucoup de valeurs symboliques. Je vais vous en montrer trois d'entre eux, à savoir le gisement de Deep Kloof, âgé pour les niveaux qui livrent ce type de matériel de près de 60 000 ans, qui livre de très nombreux fragments de coquilles d'œufs d'autruche, qui portent des signes, des traits, qui à nouveau reproduisent des damiers, et des points, des ponctuations, donc ces fragments d'œufs d'autruche sont pratiquement tous intentionnellement marqués, et Pierre-Jean Texier, qui a étudié et fouillé ce gisement, considère qu'il y a à travers cette production une imbrication assez complexe, traduisant une forme d'identité collective des groupes qui ont fréquenté ce gisement, et d'une production artistique traduisant plutôt la variabilité individuels des artistes ou des familles qui utilisaient ces œufs d'autruche comme des conteneurs pour transporter probablement des liquides. Francesco De Rico a très récemment publié la découverte de la plus vieille parure associée à un défunt dans le gisement de Border Cave. Le niveau archéologique qui livre ce bébé est vieux de près de 75 000 ans. Et associé à cet enfant, vous avez ce coquillage qui a été volontairement modifié pour qu'il puisse être porté au moins en pendeloque. Et cette pendeloque était clairement associée au volume constituant la sépulture de cet individu qui a été reproduit de sépulture dans un musée. Vous êtes en présence de la plus vieille parure associée à un mort actuellement connue dans le monde, et elle a été l'œuvre d'une population humaine qu'on connaît très mal par sa biologie, mais que l'on suppose être des hommes anatomiquement modernes étant donné leur âge, sans aucune certitude, et qui donc est connue dans le monde. Un autre gisement, celui de Blombos, la grotte de Blombos, toujours en Afrique du Sud, a livré sur des niveaux qui s'étagent entre moins 65 000 et moins 90 000 ans une quantité énorme de fragments de morceaux d'ocre qui présentent pour beaucoup d'entre eux, pratiquement un cinquième, des traces d'activité humaine, des stries, qui montrent que l'on a au moins cherché à récupérer de la poudre d'ocre, voire même à produire des objets avec des imbrications de traits qui pouvaient avoir une valeur symbolique. Et cette abondance d'ocre modifié par l'homme, a amené à nouveau Francesco De Rico à réfléchir au passage de l'utilisation d'une matière première minérale telle que l'ocre, qui pouvait être utilisée d'abord pour des raisons pas forcément économiques, mais pour des raisons non symboliques, comme protéger la peau des individus de l'agression des rayons du soleil, à une utilisation qui va devenir progressivement symbolique. Et il a mené très récemment une étude très intéressante de populations vivant en Namibie, où effectivement l'ocre est très intimement mêlé à la fois à la sphère matérielle régissant la vie de tous les jours de ces individus et à la sphère symbolique de ces populations humaines. Si on essaie de remonter encore plus le temps, des chercheurs ont naturellement supposé que la mise en œuvre de ces bifaces qui traduisent une période que l'on appelle le paléolithique inférieur, donc plus ancien que 200 à 350 000 ans, et la recherche de la symétricité dans ces produits finis que sont ces bifaces, avait peut-être eu une valeur symbolique pour les zones de la préhistoire qui peuplaient l'ancien monde à ce moment-là. Cette valeur symbolique est peut-être confirmée par une découverte qui a été faite en Espagne il y a quelques années, dans un site qui s'appelle la Cima de los Huesos. Ce gisement est un site absolument extraordinaire qui se situe dans la région de Burgos. Il est âgé de près de 450 000 ans parce qu'au fond d'une cavité, on a trouvé une énorme concentration de vestiges osseux de pré-néandertaliens, donc les ancêtres des hommes de Néandertal. Cette concentration est tellement riche que dans cet unique gisement, on a les restes de pratiquement 30 individus différents et ça représente à peu près 70% de ce que l'on connaît pour cette période-là dans les archives paléoanthropologiques. Or, associé au reste de cette petite trentaine d'individus, il y a un seul objet lithique et c'est ce biface qui a été retrouvé mêlé avec les ossements humains et les ossements de faune parce que le site a aussi été utilisé par les ours des cavernes comme un lieu d'hibernation. Les collègues espagnols qui étudiaient ce gisement n'ont pas hésité à proposer l'idée que ce biface était associé à ces morts en raison de des pratiques funéraires et donc que ce biface avait une valeur symbolique. Mais malheureusement, ce n'est pas sur la base d'un seul objet associé à un contexte très particulier connu dans un seul site que l'on est capable effectivement de proposer cette hypothèse. Pour pouvoir proposer cette hypothèse que cette association de ce biface unique, de cet unique objet lithique associé à des morts ait une valeur symbolique, il faudrait que nous ayons plusieurs gisements qui nous livrent le même type de matériel. Si on remonte encore plus le temps, eh bien, on va s'apercevoir que des hommes âgés de près de 1,5 million d'années ont quelquefois eu des activités que l'on pourrait ranger dans la sphère des activités symboliques. Et c'est par exemple le cas de ces traits gravés sur des coquilles de mollusques d'eau douce trouvées en Indonésie sur l'île de Java. À l'époque, on considère que l'Indonésie ou l'île de Java est peuplée par des populations que l'on ne rapporte pas à l'espèce Homo sapiens, mais que l'on rapporte plutôt au groupe des Homo erectus, donc des êtres qui ont vécu sur la Terre entre 1,5 million d'années et peut-être 200 000 ans sur ces territoires eurasiatiques orientaux où ils auraient perduré plus longtemps que dans d'autres régions du monde. Vous avez, avec ces traces gravées sur ce coquillage, peut-être l'une des plus anciennes traces de gestes à potentielle valeur symbolique réalisées par un membre du genre Homo. Et pour finir cette courte conférence, peut-être que cette préoccupation d'ordre symbolique n'a pas forcément caractérisé que le genre Homo, puisque dans un site d'Afrique du Sud, qui livre des niveaux qui sont vieux de près de 3 à 2,5 millions d'années, et que l'on sait avoir été fréquenté par des australopithécinés, donc ce que le professeur Yves Coppens appellerait des pré-humains, des individus qui, par leur morphologie, sont très éloignés de ce que nous sommes, nous, en tant que membres du genre Homo, eh bien, nous savons que ces australopithécinés ont recueilli dans les alluvions d'une rivière qui se situait à une dizaine de kilomètres de leur gisement, ce galet de petite taille, avec une couleur rouge naturelle. Et ce galet de petite taille porte sur au moins une de ses faces des altérations naturelles qui ne sont pas sans rappeler celles d'un visage d'un primate tel que nous le sommes. Voilà, je vais m'arrêter là et je vous passe la parole si vous souhaitez que nous échangions plus précisément sur certains aspects.